VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 13 avril 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, plus de 132 arrestations recensées selon l'ONU après les manifestations interdites de lundi.
Centrafrique, deux chefs de milice placés par Washington sur sa liste des sanctions.
Au Sénégal, une vingtaine de morts et plus de 100 blessés dans un incendie hier au Dakha de Medina Gounas.
Deux Marocains et un Nigérian, présumés terroristes, ont été arrêtés entre fin mars et début avril à Dakar.
Le président Donald Trump a plaidé pour une entente entre les États-Unis et la Russie après les entretiens de Rex Tillerson hier à Moscou.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont déclaré hier avoir recensé 132 arrestations à travers le pays après des manifestations interdites lundi contre le président Joseph Kabila. Kinshasa avait annoncé 34 interpellations et selon les autorités, ces 34 personnes ont toutes été relâchées. Eddie Sango.
Kofi Edem Wogomebu du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC a dit hier que 132 personnes ont été arrêtées et environ 51 sont déjà relâchées. Il a ajouté que son bureau a entrepris des plaidoyers en faveur des personnes arbitrairement arrêtées par les services de sécurité afin d'obtenir leur libération. De son côté, la police nationale avait indiqué à VOA Afrique avoir placé lundi 34 personnes en garde à vue à Kinshasa et a assuré les avoir toutes relâchées après les manifs interdites. L'UDPS, principal parti d'opposition, avait appelé lundi à manifester contre le président Kabila, accusé de ne pas appliquer l'accord du 31 décembre. Dans le cadre de cet accord, M. Kabila a nommé le 7 avril au poste de Premier ministre Bruno Tshibala. Certains membres du parti les considèrent comme un traître et ont condamné cette nomination.
Deux chefs de milice accusés de contribuer à l'instabilité en République centrafricaine sont placés sur la liste des sanctions économiques des États-Unis, une décision qualifiée de message fort aux groupes armés en RCA. Jacques Aristide.
Le Trésor américain a ciblé Abdoulaye Hissen, leader de l'ex-Séléka, la rébellion à dominante musulmane, qui avait renversé le président François Bozizé en 2013. Également sanctionné, Maxime Mokom, figure des milices chrétiennes anti-Balaka, qui avait lancé la contre-offensive après le coup d'État, provoquant des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. D'après Washington, ces chefs rebelles ont perturbé le référendum constitutionnel en 2015. Et ont fragilisé en 2016 l'autorité du président Foster Kanje Touadéra. L'an dernier, Abdoulaye Hissen et un groupe armé avaient engagé des combats avec les forces centrafricaines avant d'échapper aux soldats de l'ONU. Les deux hommes verront leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés. Pour l'ONG américaine Enough Project, cette décision est une note d'espoir dans la lutte contre l'impunité, mais les sanctions, selon elle, doivent vraiment se traduire dans la réalité, particulièrement dans le commerce de l'or, du diamant et du bois centrafricain.
Au Tchad, réaction du procureur général près la cour d'appel de N'Djamena à la suite de l'attaque contre des prisonniers en transfèrement de la maison d'arrêt de la capitale à celle de Korotoro. Cette attaque a fait 10 morts et 2 blessés. Dans sa communication d'hier soir, Maouli Luapambe Bruno a déclaré que les auteurs de ces actes ne resteront pas impunis.
Condamné à l'unanimité, cette attaque a aussitôt suscité le déplacement des autorités judiciaires, dont le ministre de la Justice et moi-même, et les éléments des forces de défense et de sécurité, qui ont fait un constat des lieux avant de lancer les recherches, tant en ce qui concerne d'abord et surtout les assaillants en fuite, et ensuite pour les détenus dispersés dans la nature à la suite de la dite attaque. Dans tout état de droit, un tel acte ne saurait rester impuni. C'est pourquoi, en suite de recherches lancées par les autorités, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'instance du tribunal de grande instance de N'Djamena pour identifier les auteurs de cet acte condamnable en vue de leur interpellation pour répondre de leurs actes, car nul n'est au-dessus de la loi pour prétendre se soustraire des dispositifs répressifs mis en place par l'État. La justice de notre pays, en tant que gardien des droits et des libertés, se sent directement interpellée par une telle bavure et doit tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes.
Au Sénégal, une vingtaine de morts et plus de 100 blessés, c'est le bilan de l'incendie qui a eu lieu hier après-midi au Dakar de Medina Gounas, une retraite spirituelle qui réunit chaque année des milliers de musulmans dans la région de Kolda, à plus de 670 km au sud de Dakar, où nous retrouvons notre correspondant Sedina Abagay.
Des pèlerins pris au piège des flammes, des tentes, voitures et marchés occasionnels entièrement calcinés. La 76e édition du Dakar de Medina Gounas a viré au drame. Un feu d'une violence inouïe s'est déclaré vers 16h et s'est rapidement propagé sur ce sanctuaire religieux. Largement dépassé par la furie des flammes, les sapeurs-pompiers, sous-équipés et en sous-effectif, sont finalement parvenus à circonscrire le feu après des heures de lutte. Le bilan provisoire est lourd. Une vingtaine de morts et plus d'une centaine de blessés sont dénombrés. Le Dakar de Medina Gounas est une retraite spirituelle qui réunit chaque année plusieurs centaines d'érudits et des milliers de fidèles musulmans. Elle se déroule dans la zone forestière du parc Nyokolokoba et est fréquemment le théâtre d'incendies. Cependant, la gravité de ce nouvel incendie est sans précédent et les causes ne sont toujours pas connues.
Sidina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Togo, Amnesty International réclame la libération immédiate et sans condition de Kambate Garimbité. L'opposant est détenu pour ses opinions, estime l'ONG de défense des droits de l'homme, qui accuse les autorités d'intimidation et d'arrestation arbitraire. Morgane Diriek nous en dit plus.
Militant de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, Kambate Garimbité a été arrêté le 4 avril à Yembourg, dans le nord du Togo. Pendant une réunion de parents d'élèves, il s'était opposé à un responsable local. Selon Amnesty International, il avait remis en question la légalité d'une mesure décidée par le chef de canton, demandant aux parents de payer après des manifestations d'élèves qui avaient causé des dégâts matériels. Suite à ces propos, il a été arrêté et accusé de troubles aggravés à l'ordre public, s'indigne Amnesty International, qui précise que le militant est détenu dans une prison de la région sans accès à un avocat pour uniquement avoir exercé son droit à la liberté d'expression de manière pacifique.
Deux Marocains et un Nigérian présumés terroristes ont été arrêtés entre fin mars et début avril à Dakar, où ils sont détenus en attendant la fin d'enquête en cours. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la police sénégalaise reçu mercredi par l'AFP. Les deux Marocains venaient d'un camp de réfugiés syriens en Turquie et le Nigérian est connu des services de renseignement de son pays pour terrorisme et revenait de Mauritanie où il a séjourné des mois et serait venu à Dakar dans le seul but de recruter des terroristes pour le compte de Boko Haram.
Au Nigeria, un soldat et trois policiers sont décédés hier lors d'un affrontement entre l'armée et la police dans l'état de Yobe, au nord-est du pays, une région en proie à l'insurrection du groupe Boko Haram. Selon un officier de sécurité qui a requis l'anonymat, l'accrochage s'est produit au moment où un officier de l'armée habillé en civil a percuté un convoi du chef de l'unité mobile de la police à Damaturu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a plaidé pour une entente entre les États-Unis et la Russie malgré une rencontre glaciale à Moscou entre les chefs des diplomaties des deux puissances nucléaires dont les relations sont au plus bas. La guerre en Syrie demeure le contentieux le plus lourd entre Washington et Moscou, Donald Trump traitant son homologue syrien Bachar al-Assad de boucher et d'animal et jugeant possible que la Russie ait été au courant de l'attaque chimique du 4 avril imputée au régime de Damas.
Signe de divergence patente entre occidentaux et russes, ces derniers ont opposé à l'ONU leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité réclamant une enquête internationale sur cette attaque chimique présumée à laquelle Washington a répondu par une frappe punitive le 6 avril. M. Trump avait prôné tout au long de sa campagne et au début de sa présidence un rapprochement avec son homologue russe Vladimir Poutine.
En Corée du Nord, le dirigeant Kim Jong-un a supervisé des manœuvres militaires de ses forces spéciales, c'est ce que rapportent aujourd'hui ses médias d'État, au moment où la tension monte entre Pyongyang et Washington au sujet du nucléaire.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement et la CCECC, une société chinoise, se sont engagés à travers un protocole d'accord à réhabiliter et construire des voies ferrées. Au programme réhabilitation des 886 km des deux lignes Pointe-Noire-Brazzaville et Montbello-Bimda, et construction de 4 nouvelles lignes de 1767 km au total. Nouvelle loi au Zimbabwe, les banques commerciales seront désormais obligées d'accepter le bétail comme garantie aux prêts en espèces. Le projet de loi a été introduit à la Chambre par le ministre des Finances et du Développement économique, Patrick Chinamaza. Ce nouveau projet de loi prévoit également que les véhicules, les téléviseurs, les réfrigérateurs, les ordinateurs et autres appareils électroménagers soient également acceptables en garantie une fois qu'ils seront évalués et enregistrés dans le registre de la Banque centrale. Pour doper l'innovation et espérer créer 500 PME, le gouvernement du Burkina Faso a créé un fonds annuel de 2 milliards de francs CFA sur 5 ans pour financer les startups du pays, a appris Jeune Afrique. Le fonds Burkina Startup sera lancé en mai et cible tous les secteurs d'activité. L'initiative gouvernementale tâchera de répondre à l'un des défis majeurs des entrepreneurs africains, l'accès à des financements à un stade précoce de développement.
À présent, les sports avec ce matin Jean-Roger Bion. Jean-Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Didier Drogba dépose ses valises à Phoenix, ici aux États-Unis.
Oui, l'ancien international ivoirien a signé mercredi avec le club de deuxième division américaine des Phoenix Rising afin de l'aider à atteindre son rêve d'évoluer en Major League Soccer, la division 1 des États-Unis. L'ancienne star de Chelsea, âgée de 39 ans, va intégrer l'effectif du club de l'Arizona avant éventuellement de prendre un rôle de dirigeant. J'ai pris mon temps pour décider de ce que je voulais faire et je suis très enthousiaste à l'idée d'évoluer avec le Phoenix Rising, a assuré Drogba dans un communiqué. Je suis convaincu que je peux aider leur organisation sur le terrain, comme en dehors, a-t-il ajouté.
Jean-Roger, on joue pour le compte de l'Europa League ce jeudi. Une constellation de stars au rendez-vous.
Eh bien, Idrissa, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Yuri Tillmans et Alexandre Lacazette seront les attractions. Ce sont les têtes d'affiche des quarts de finale aller de l'Europa League qui se joueront ce soir dans la foulée du drame de Dortmund. L'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a essayé de motiver Zlatan et ses coéquipiers en disant que gagner la petite Coupe d'Europe serait le moyen le plus sûr de se qualifier pour la grande. Ils s'opposeront aux Belges d'Anderlecht. Autre match prévu donc ce soir, Celta Vigo, Espagne, Genk de Belgique. Ajax Amsterdam, le club hollandais, sera opposé à Schalke 04 d'Allemagne. Les matchs retour sont prévus pour le jeudi 20 avril prochain.
Les quarts de finale de la Ligue des Champions, c'était hier.
Exactement, Idrissa. Le terrain a repris ses droits mercredi, au lendemain de l'attentat qui a ciblé le bus de Dortmund. Porté par un grand Kylian Mbappé en Allemagne, Monaco s'est approché des demi-finales de la Ligue des Champions en disposant de Dortmund donc 3-2. Tout comme le Real de Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé à Munich chez le Bayern, 2-1. Leicester, novice à ce niveau, peut de son côté toujours croire à son compte de fées. Sa petite défaite face à l'Atlético de Madrid, 1-0, autorise le champion d'Angleterre à rêver d'une qualification historique à une semaine du retour. Mardi déjà, la Juventus avait pris le meilleur sur Barcelone, 3-0. Les matchs retour auront lieu le mardi 18 avril.
Et on termine en basketball avec les résultats de la NBA.
Détroit a subi la loi de Orlando 109-113, Toronto a défait Cleveland 98-83, Milwaukee est tombé face à Boston 94-112, Philadelphie a perdu contre New York 113-114, Washington n'a pas fait le poids devant Miami 102-110, Brooklyn a été dompté par Chicago 73-112, Dallas a surclassé Memphis 193, Minnesota s'est incliné devant Houston 118-123, Denver a vaincu Oklahoma City 111-105, Atlanta a perdu devant Indiana 86-104 et défaite de San Antonio face à Utah 97-101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, notre correspondant nous signale que le nouveau gouvernement a été une déception pour la population à cause de sa taille, du nombre limité de femmes et du fait que certains départements ministériels ont été scindés pour permettre à des alliés politiques du régime d'être au gouvernement. Et puis, parmi les 11 entrants, il y a quelques anciens qui avaient été limogés pour insuffisance de résultats. Alors, de Bamako, Kassim Traoré.
Grande déception pour les Maliens et qui espéraient avoir un gouvernement de crise avec moins de ministres constatent que le nombre de ministres est 35. 11 nouveaux entrants et 25 ministres de l'équipe sortante restent à leur poste.
Je suis Salif Ben Ali, je suis administrateur de l'action sociale. J'ai vu la liste du gouvernement hier et j'étais vraiment étonné parce que je me dis que le chef de l'État est en train de perdre les pédales. De 33, on est à 35 membres malgré la crise qui frappe notre État. 35 membres un gouvernement, c'est pléthorique. On aurait pu former un gouvernement modeste de 20 membres maximum. Aujourd'hui, on a divisé les certains ministères de telle sorte que certains ministres, apparemment, on ne sait pas quel sera leur rôle. Eux-mêmes n'ont pas de bureau. Ils sont comme des directeurs nationaux.
Parmi les 11 nouveaux entrants, il y a Tchénan Koulibaly, actuel ambassadeur du Mali aux États-Unis, et le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. L'avocat Maître Kassoum Tapour devient ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État. Un nouveau département. Mais surtout, il y a aussi Iver Koulibaly, limogé suite aux attaques de Nampala et Douanza. Il est l'actuel ministre de l'administration territoriale.
Moi, c'est Fama Keïta. Le nouveau gouvernement aujourd'hui, c'est la déception totale. On sait qu'il ne peut rien foutre, surtout avec la crise sociale. Avant la constitution du nouveau gouvernement, on a des noms qui étaient dedans, avant, qui étaient répétés par tout le monde. Et on a vu ces gens-là figurer encore. Alors, c'est décevant. Mais on attend juste 2018. Si ces gens-là sont venus pour triquer les élections en 2018, non, ils vont passer à côté.
La grogne sociale actuelle a fait partie des ministres comme celui de la Santé et de l'Éducation nationale. Par contre, le secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, est nommé dans le gouvernement. Mauloud Ben Katra est ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Nous espérons que le gouvernement soit un gouvernement qui va se mettre maintenant à la disposition du peuple malien. Quand vous prenez Mauloud Ben, donc c'est très bien. C'est un syndicaliste, ça va lui permettre maintenant de mieux discuter avec ses autres collègues. Concernant le départ du ministre de la Santé, de l'Éducation, vu actuellement ce qui se passe au Mali, on s'attendait à leur départ.
Dans le nouveau gouvernement, le parti au pouvoir a 7 ministres. Certains de ses alliés ont un département, mais l'ADEMA PASJ a 4 ministres. L'opposition malienne ne fait pas partie du gouvernement actuel. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition.
Nous n'avons jamais été consultés pour ce gouvernement. Pour qu'une opposition fasse partie d'un gouvernement, je crois qu'il y a des positions politiques à discuter et des accords politiques à avoir. Le ministre a été nommé sans notre accord, sans notre consultation. Donc l'opposition n'est pas concernée par ce gouvernement.
La CMA n'est pas dans le gouvernement. La plateforme y est représentée par un ministre à la personne de Mohamed El Mokhtar, ministre de la Réconciliation nationale. Quant aux femmes, elles sont au nombre de 8, dont la présidente de la coordination des ONG féminines du Mali, Traoré Oumoutouré, qui est devenu ministre de la Femme, de la Promotion et de l'Enfant. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, c'est l'an 1 de Patrice Talon à la tête du pays, un premier anniversaire marqué par une crise sociale et le récent rejet du projet de révision de la Constitution, point clé du programme d'action du gouvernement actuel. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur a Dandé fait le point.
Marche de protestation, récrimination, coup de gueule, les médias se laissent submerger par les ronchonnements d'une population exaspérée par la misère ambiante, l'affaiblissement du panier de la ménagère, le climat des affaires qui s'est dégradé. À tout cela s'ajoute le silence du gouvernement qui communique peu et qui donne l'impression d'être insensible à la souffrance des Béninois. Deux fois déjà, le président est passé sur la télévision nationale pour inviter les populations à serrer davantage la ceinture et à s'armer de patience en attendant qu'il ne concorde un mais complet pour la satisfaction générale. Pour Eugène Azatassou, coordonnateur des forces Kori pour une Bénin émergente, cela n'a vraiment pas de sens.
C'est d'abord régler ses propres problèmes, arranger ses propres affaires. On est sans considération pour la population en général, parce que dans un pays, tout le monde ne peut pas être milliardaire. La conduite d'une politique, c'est prendre en considération cela et de lever le niveau d'ensemble pour permettre le développement.
Son collègue Valentin Dianotin est du même avis. Pour lui, depuis le rejet du projet de révision de la Constitution, le chef de l'État a montré qu'il ne veut gouverner qu'avec ceux qui l'acclament.
Comment en démocratie, à ce niveau de responsabilité, on peut s'offusquer à ce point parce qu'on pense que tout ce qu'on va amener, ça doit être oui, mais non.
Là, un aura été d'aucun repos pour le chef de l'État qui s'est vu refuser par les députés la concrétisation de l'une de ses promesses phares. Le chef de l'État tire les enseignements de cet échec et dit fermer définitivement les pages de la révision de la loi fondamentale.
L'examen du projet donne la liberté aux députés d'amender comme ils souhaitent. Ils n'ont pas voulu. Ils ont bloqué pour le principe politique. Peut-être. Pour moi, c'est derrière. La révision de la Constitution initiée par le président Patrice Talon, c'est fini.
Pour beaucoup, l'obstination à tout remettre en cause pourrait mettre en échec l'actuel gouvernement qui ne veut pas tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'est le cas de Gustave Sonon, ancien ministre et député.
Il faut que les réformes soient beaucoup plus orientées vers l'esquisse d'une base solide que de dire, bon, tout ce qui était fait avant c'est mauvais, je rase et je reprends.
Tout au long de cette première année, on a reproché au président des expressions tendant à diminuer le peuple comme désert de compétences ou encore cette tendance à banaliser la fonction présidentielle. Le chef de l'État s'explique.
Le peuple m'a confié la direction du pays pendant 5 ans. C'est vrai, c'est une fonction difficile, mais je n'ai pas été élu que pour les honneurs de la fonction. J'étais le garant pour son côté difficile. À titre personnel, je m'en voudrais de dire que ce qui est la règle générale, qui ne va pas s'imposer à moi et aux autres, que parce que j'ai un idéal là-dessus, je vais avoir une position, un propos qui donne l'impression que j'ai une aversion pour la fonction. J'assume mes propos.
Et pourtant, il va falloir dépasser les clivages politiques et les sentiments personnels pour redonner foi et espoir au peuple béninois qui, dans sa majorité, semble ne plus se retrouver dans les promesses électorales du candidat devenu président de la République de Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
Au Burundi, la ministre de la Santé a déclaré l'épidémie de malaria dans le pays. Ces 3 derniers mois, 949 personnes sont mortes du paludisme, tandis que 1 800 000 personnes vivent avec la malaria. Le gouvernement indique qu'il a besoin de 32 millions de dollars pour combattre cette épidémie. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, s'est rendu au centre de santé de l'organisation Action de lutte contre la malaria.
Au quartier Sokarti, dans Kamenge, au nord de Bujumbura, un dispensaire accueille de lundi au vendredi des enfants, des femmes et hommes qui viennent se faire dépister du paludisme. Cette maman, avec ses deux enfants, est venue dans ce centre de santé qui ne demande presque rien pour le dépistage.
Je suis venue faire dépister mes deux enfants pour voir s'ils ont la malaria. Ils ont des températures élevées, de fièvre avec la toux. Maintenant, ils ont donné leur sang. J'attends les résultats. Je viens ici car on ne demande pas beaucoup d'argent. En fait, ce sont comme des bienfaiteurs, car on n'a pas d'argent. Un enfant donne 100 francs burundais, tandis qu'un adulte paie 500 francs.
Une cour vaste accueille des malades. Ce jeune homme affirme que lui aussi est venu faire un dépistage alors qu'il y a 5 mois, il avait eu la malaria.
Considérant les symptômes que j'affiche, je crois que je souffre de malaria. C'est le céphalée, le toux, le rhume et l'asthénie. J'ai plus d'ichinine.
Gilbert Ndizeye, laborantin de l'action de lutte contre le paludisme, il estime qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se dirigent chaque jour à ce centre de santé.
Vous souvenez-vous que le gouvernement a déclaré que c'était un fréau? Les patients sont privés qui se présentent ici à l'ANMA, c'est-à-dire à l'exode de lutte contre la malaria. Ça a dépassé 50%. Maintenant, c'est entre 65 et 70. On lui donne de la quinine.
Cette infirmière fait état de plus de 52% de personnes malades de paludisme qui se dirigent quotidiennement à ce centre.
Le mois passé, c'était aux environs de 1915 patients qui se présentaient ici. Mais le temps de pourcentage était de 52%. Et le total des patients positive était 1011. Je pense que c'est une épidémie.
Pour le représentant légal de l'ONG Action de lutte contre le paludisme, Albert Mbonerané, s'il est vrai que le gouvernement burundais a déclaré la malaria comme une épidémie, il faut articulé son action autour de trois objectifs.
Il faut que les Burundais soient éduqués à la lutte contre le paludisme, que les Burundais sachent que le paludisme c'est une maladie qui tue beaucoup de gens, mais qui guérit si on la traite comme il faut. Deuxièmement, il faudrait une sensibilisation régulière pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire pour se prévenir contre le paludisme. Troisièmement, il faut que le gouvernement investisse dans l'acquisition des médicaments essentiels, je dis la quinine, l'artisanat modiakine, mais que ces médicaments soient disponibles et gratuitement pour toute la population.
Pour Albert Mbonerané, le gouvernement doit urgentement inviter les partenaires autour d'une table ronde pour transmettre les messages d'urgence, car un problème sans solution est un problème mal posé, comme l'avait dit Albert Einstein. Et cela, en vue de sauver les vies humaines. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les relations américano-russes semblent être au plus bas, pour citer des officiels de l'administration Trump. Les discussions que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a eues successivement hier à Moscou avec son homologue russe Sergei Lavrov et le président Vladimir Poutine n'ont pas permis d'arriver à une solution commune sur la crise syrienne. Dans la soirée, la Russie a usé de son veto pour bloquer un projet de résolution du Conseil de sécurité introduit par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Ce texte visait à exiger une enquête internationale sur l'attaque chimique de Khan Cheikhoun imputée au régime de Bachar al-Assad. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen.
Tous les deux, les États-Unis et la Russie, ils ont un intérêt maintenant à avoir un peu de tension entre les deux gouvernements. Président Trump a été un peu trop gentil avec Poutine pendant la campagne et les services de renseignement américains ont révélé que les Russes ont intervenu dans notre élection pour aider Trump. Donc, pour Trump, c'est très important de ne pas être trop gentil avec Poutine en ce moment. De l'autre côté, la Russie a été accusée d'avoir intervenu, donc eux aussi doivent montrer qu'il y a un peu de tension. Donc, je ne trouve pas que ce soit très important, cette tension. De l'autre côté, on peut dire qu'il y a un vrai désaccord entre les deux. La Russie insiste à soutenir Bachar al-Assad, un vrai monstre, parce qu'il a tué plus que 400 000 Syriens, ses propres citoyens. Et l'Amérique veut en finir avec cette guerre. Donc il y a une vraie tension à cause des différentes perspectives stratégiques.
Qui mène la danse aujourd'hui?
Oh, je crois que tous les deux ont un intérêt mutuel. Maintenant, il y a une enquête aux États-Unis par les deux chambres de notre Congrès sur l'intervention russe dans notre élection et ça a l'air d'être très sérieux. Il paraît qu'il y avait même des gens de Trump qui ont coopéré avec les services russes. Donc ça, c'est très sérieux. Et donc, avec cette frappe, président Trump a changé le narratif un peu. Il a dit, voilà, je ne suis plus sur la même page que les Russes. Mais il faut attendre que les enquêtes se terminent. Et je crois que les discussions à Moscou n'ont rien changé.
Donc on ne verra pas le bout du tunnel?
Pour le moment, non. Je ne crois pas que l'Amérique et la Russie vont coopérer sur la Syrie. Peut-être sur les autres sujets, Corée du Nord par exemple.
L'administration Obama a été beaucoup critiquée pour n'avoir rien fait en Syrie. Si Bachar al-Assad se maintient, est-ce que les mêmes critiques ne vont pas être valables pour l'administration actuelle?
C'est possible, mais en général, notre politique aux États-Unis maintenant se concentre sur la politique intérieure. Il y a beaucoup d'Américains qui ont voté pour Trump parce qu'ils désirent le changement. Il y a une grande population de gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas eu une augmentation de salaire. Ils ont des problèmes financiers. Donc, personne ne va voter pour les problèmes d'affaires étrangères aux États-Unis.
C'était l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen, joint à Washington. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.